Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour cette année 2024. On continue notre collection que nous produisons de concert avec nos amis de Procivis pour trouver du sens à tout ce qui nous arrive. Et le sens que l'on veut y trouver, c'est bien le sens de l'immobilier. C'est le titre de cette collection. Premier numéro sur 2024. On est très heureux de vous retrouver. Le thème, c'est penser le logement exemplaire de demain. Pour ce faire, je serai accompagné sur toute cette collection comme c'était d'usage l'an dernier. Il est avec nous, il est à la fois, je le dis souvent mais je le répète puisque la pédagogie et la répétition, il a cette chance de cumuler finalement deux univers, l'univers de l'élu local qu'il est également et du promoteur immobilier. Yannick Borde, président du réseau Procivis. Bonjour Yannick.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Ça va.
On va dire ça va.
Non, mais la santé, ça va. On a des sujets majeurs dans le secteur d'activité dont on va parler. Donc, moment difficile, moment compliqué.
Également, maire de Saint-Berthevin.
Oui, là, ça va très bien.
Et là, ça va très bien. Et on s'était vu d'ailleurs il y a quelques semaines avec Florian Berco, le maire de Laval, dans ce très très joli hôtel de ville avec une ville qui se transforme. Merci d'être avec nous. Pensez le logement exemplaire de demain. Il nous fallait deux invités qui sont des personnes marquantes de l'immobilier. Et moi, je l'avais rencontré il y a quelques années, mais maintenant, j'avais beaucoup aimé son humanisme et sa façon de s'intégrer dans cette urbanité, dans cette nouvelle humanité. C'était un très très bon moment, je suis très heureux de le retrouver, c'est Mathieu Nédanchel. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec moi et avec nous, plus exactement, directeur général du groupe CASN. On va en parler tout à l'heure pour faire un peu de com', puisqu'on ne va pas s'en priver. Hein. Merci d'être avec nous. Quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, une évolution absolument, une success story, une family success story plutôt, extrêmement intéressante, très innovante, avec un esprit véritablement d'innovation, c'est ce qui prédomine dans ce groupe, le groupe éponyme d'ailleurs, groupe Verecchia, et on a le plaisir et l'honneur d'avoir son président avec nous, Marc Verecchia. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Merci Marc d'être avec nous. On en parlera tout à l'heure. C'est exemplaire ce que vous faites, c'est magnifique. Comme quoi on peut dire quand même que dans ce pays, on a quand même un incroyable talent. Voilà, je ne fais pas allusion à un programme télé, loin de là, mais on a beaucoup de talent. Il faut se dire ça en ce moment, justement, pour essayer de transcender cette actualité qui, croyez-moi, n'est pas au top en ce moment-là. Pour la construction de logements, les victimes directes des problématiques du logement, vous le savez hein, Yannick, ce sont les Français. Un édito pour démarrer tout de suite après ça.
Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis.
Yannick, avant le débat, je voudrais qu'on fasse un petit édito, vous et moi. Le secteur du logement rencontre une situation inédite et parfaitement contradictoire. Alors contradictoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait des mois qu'on a une crise multifactorielle. On a connu, vous et moi, des crises dans le passé. On s'estimait peut-être un peu bétonné, qu'on avait le cuir épais, on s'est dit bon, on a déjà vu des hausses de taux, on a déjà vu des problématiques de construction, des défaillances aussi d'entreprises qui construisent, enfin, on a à peu près tout vu, mais là, c'est quand même inédit. On a l'impression, à l'instar de ce que disait feu Jacques Chirac, que les emmerdes ont volé en escadrille. Voilà, tout en même temps, les taux, l'inflation, les problématiques de construction. Si on devait décrypter aujourd'hui, et j'ajoute l'incurie ou peut-être la négligence des politiques publiques dont on parle, dont vous parlez beaucoup, puisque vous êtes à l'initiative aussi de cette alliance pour le logement, j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Comment on peut aujourd'hui définir à l'actualité, voilà, sur une année 2024, dont on ne sait pas trop réellement quels en seront les contours, Yannick?
Alors, c'est certes, on sort d'une année 2023 où tout ce que vous avez évoqué était au rendez-vous. La courbe des taux, c'est un peu le déclencheur, mais aujourd'hui, c'est presque un peu derrière nous. Hein. Les coûts de construction, les difficultés de construire, l'acceptabilité de construire par les habitants. Donc ça, c'était le débat qu'on avait nécessairement sur la production et sur l'offre à un moment donné. Et puis, est venu se greffer de façon assez violente en 2023, l'autre côté, c'est-à-dire la demande, avec sans doute des gens qui se sont un peu auto-censurés au départ parce que les taux montaient, donc ils pouvaient se dire eux-mêmes « je vais plus avoir accès au crédit ». Peut-être un discours ambiant dont on a une part de responsabilité qui était de dire « les choses vont pas bien, ça va se dégrader », donc ce qui crée de l'attentisme. À la fois une difficulté de production, quand ta production pouvait éventuellement se faire... une demande qui n'est plus au rendez-vous depuis quelque temps, et puis des mesures politiques, vous en avez un peu parlé, qui ont quand même abîmé la solvabilisation des ménages. On va pas revenir trop en arrière, mais en 2018, quand on supprime l'appel accession, c'est quand même déjà un signe. L'année dernière, quand on rabote le prêt à taux zéro à partir de... Alors, ça a été décalé pour des raisons de mise en place, mais au 1er avril prochain, on est quand même en train d'abîmer une partie de la chaîne du logement, et notamment cette accession sociale qui concerne une grande partie de la population. C'est ce qu'on appelle la classe moyenne, mais une classe moyenne qui s'est un peu épaissie en plus dans ces dernières années. Et donc une chaîne qui est compliquée. Moi j'avais dit, je crois, ici à plusieurs reprises sur l'année dernière, que l'indicateur qui nous inquiétait le plus, je regarde Mathieu parce qu'on est ensemble dans le même réseau, c'était la vitrification, on l'avait appelé comme ça, du marché locatif.
Oui.
C'est-à-dire à partir du moment où les gens ne bougent plus, ne tournent plus, hésitent à investir, effectivement on a un marché qui est complètement à l'arrêt. Et on a vu réapparaître aussi, c'était pas, quand vous me présentez, vous avez la gentillesse de me présenter avec ma double casquette, mais il y a quelque chose qui revient et qui a l'air d'être en partie un début de réussite, c'est la réindustrialisation de la France. Et donc on a vu de façon extrêmement forte, je pense sur le territoire de Saint-Nazaire, Mathieu pourra nous en parler, sur les chantiers de l'Atlantique, une connexion emploi-logement qui a peut-être été des années précédentes pas oubliée, mais un peu distendue, et là qu'elle devient un élément extrêmement structurant de la situation actuelle, et on voit bien que la place du logement devient essentielle. On a un problème vraisemblablement aujourd'hui d'adéquation encore entre la capacité des gens et le prix du logement. Moi, je rencontre beaucoup les banquiers en ce moment avec qui on essaye de discuter un peu des prospectives et nous disent les taux vont baisser vraisemblablement, mais en même temps, quand est-ce que vous faites baisser le prix du logement? Je ne sais pas si on aura des débuts de réponse dans l'heure qu'on passe ensemble sur le sujet, mais on voit bien qu'il y a des choses qui doivent être restabiliser, et puis je pense aussi qu'une partie des acteurs que nous sommes, on doit faire évoluer nos modèles, parce qu'on est on est au-delà du conjoncturel. C'est plus profond que ça, ce qui se passe. Et quand on voit depuis le début de l'année...
Quand vous dites plus profond, est-ce que vous pourriez creuser un peu plus? C'est-à-dire que quand vous dites profond, est-ce que finalement on n'est pas arrivé au bout d'un modèle, structurellement, dans notre pays?
Oui, on peut-être...
Voire même avec les institutions.
Voire peut-être, même avec le système. Après, il faut se méfier quand même, parce que... je pense que on pense que les nouvelles générations ont peut-être des appétences par rapport au logement différentes des générations passées. Et quand on enquête de façon assez puissante, et vous le savez qu'on le fait nous tous les ans à l'automne, finalement, les tranches d'âge, y compris dans les moins de 35 ans, ils ont à peu près les mêmes aspirations que leurs parents ou leurs aînés sur le logement. On pense que les gens sont hyper mobiles. Certes, on a envie de l'être sur le plan professionnel, mais l'hypermobilité sur le plan du logement.
Ah bah, je vous donne un chiffre. Hein. Je vous donne un chiffre qui est sans. Appelle à l'adresse des Parisiens un peu hors sol, 87% toutes générations confondues souhaitent accéder à la propriété. C'est donc plébiscité par les Français.
Oui, hein, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent. Il y a le débat sur la maison individuelle qui a été montré du doigt. C'était l'urbanisation d'hier. On n'est plus du tout dans les mêmes schémas aujourd'hui.
Mais vous avez vu le discours des deux ministres précédents.
Même si on continue de faire de la maison individuelle. Il y a la question autour de la métropolisation qui a été hyper questionnée avec la crise sanitaire, où les villes moyennes ont retrouvé de l'attractivité. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que la réindustrialisation, elle se fait beaucoup sur des villes plutôt intermédiaires, pas les très grandes métropoles. Pas que, en tout cas. Voilà, donc... Tout ça, il va falloir que ça se restabilise. Et puis nous, acteurs du logement, je pense qu'à la fois dans notre approche des projets, dans notre approche des produits, dans notre approche de l'aménagement des territoires, dans la diversité des montages, etc., il va falloir que on évolue. On essaye de le faire, peut-être à petite échelle. La difficulté qu'on a, c'est que quand on essaie d'innover, et on parlera tout à l'heure avec les personnes qui sont avec nous ce soir d'innovation en matière de mode de construction, la question c'est, est-ce que le client en face, il est au rendez-vous? Est-ce qu'il est autant demandeur que ça? Est-ce qu'il en a les moyens? Voilà, comment est-ce qu'on remet un peu tout ça en perspective et comment tout ça se rééquilibre normalement?
Ça nous donne effectivement très envie justement d'entrer dans le débat. Merci. Juste pour conclure cet édito, je vais vous donner trois chiffres. -49%, c'est -49% d'annonces sur le marché locatif en France et sur les principaux moteurs de recherche. C'est le premier. Le deuxième chiffre, c'est 17% des contrats à durée indéterminée n'ont pas été signés à la rentrée il y a quelques mois en septembre, et et octobre 2023, faute de logement. Ça illustre votre propos sur la réindustrialisation. C'est un cataclysme pour les entreprises, hein, c'est un vrai fléau. C'est même un frein à l'innovation et au développement des entreprises. Et enfin, 12%, c'est pour les étudiants, c'est moins 12% d'étudiants qui ont renoncé à leur projet pédagogique, faute de logement. Quand on parle de crise sociale ou de déflagration, rappelez-vous, on en a parlé l'an dernier, absolument, et on l'avait déjà dit, et c'était même Olivier Klein qui, en son temps, avait dit, vous avez raison, Yannick Borde, c'est bien une bombe sociale qui a explosé. Voici le cadre du débat. On a hâte d'échanger avec les professionnels autour de nous. Vous pouvez bien sûr liker et commenter, bien sûr, et bien évidemment poser vos questions. On se retrouve tout de suite après.
Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis.
Voilà, de retour sur le plateau pour le sens de l'immobilier, Mathieu Nédonchêne. Avant tout, le CISN, c'est qui, c'est quoi ?
Société coopérative, membre du réseau Procivis, situé à Saint-Nazaire, qui exerce les métiers de promotion immobilière, de bailleur social et des métiers de service aussi, comme agence immobilière, syndic, gestion locative.
Alors, vous avez une particularité, est-ce que je peux me permettre de dire que vous êtes très orienté, j'allais dire, sur la dimension humaniste ? Et rappelez-vous, dans la première conversation qu'on avait eue, je vous avais comparé au père Bernard Devers, le président fondateur de Habitat et Humanisme. Est-ce qu'on peut faire ce trait d'union, puisque finalement, vous aspirez dans votre métier, finalement, une dimension sociale très forte ?
On a une dimension sociale très affirmée. C'est vrai que notre souhait, c'est de pouvoir offrir au plus grand nombre des logements. Quelle que soit leur capacité financière, quelle que soit leur situation de handicap ou autre. Donc, c'est vrai que dans le groupe, on a à cœur de pouvoir accompagner les différents types de personnes dans leur logement sur notre territoire.
Je vais vous demander une réaction sur l'édito et les échanges que j'ai eus avec Yannick Borde. Comment vous, de votre côté, avec votre vision, et je poserai également la même question à Marc Verica ici présent, vous analysez cette crise qui nous frappe de plein fouet, dont il ne faut pas s'y tromper, ce sont les Français qui sont les victimes collatérales.
C'est une crise qui est majeure, hein. C'est une crise qu'on n'a pas connue depuis 30 ans, donc c'est une crise une fois par génération qu'on rencontre ce type de crise-là, qui n'a pas encore malheureusement produit tous ses effets, parce que nous on est très en amont quand on est promotion immobilière.
Ah, vous pensez qu'on est au niveau de la Loire Atlantique au préambule d'une...
Voilà, c'est ça, quand on voit qu'au niveau de la Loire Atlantique, on a divisé par 5 le nombre de réservations l'espace de 3-4 ans, c'est pas encore traduit dans la construction, mais quand on se projette sur les constructions neuves, ça va être un effondrement dans les années 2025-2026, donc elle n'a malheureusement pas encore, c'est pas encore diffusé dans l'ensemble de la chaîne, donc c'est une crise très grave. Il y a des éléments peut-être un peu plus positifs en ce début d'année. Yannick faisait référence aux banques qui, semble-t-il, quand même souhaitent retrouver du client. On a des contacts, on a des banques qui nous contactent en nous disant « est-ce que vous pouvez nous flécher certaines personnes ?» etc. Donc, il y a des discours aussi officiels sur les bancaires. Il y a des taux quand même qui baissent un petit peu. Donc ça, c'est un point positif. On a aussi un gouvernement qui, semble-t-il... prend conscience de la crise qui est en train d'arriver, donc enfin en tout cas qui est dans laquelle on est, donc ça c'est aussi un élément positif, même si l'État ne peut pas tout. Et puis on a aussi, alors ça c'est positif, mais en même temps il faut le pondérer, c'est-à-dire qu'on a des coûts de construction qui baissent, donc c'est positif évidemment quand on est promoteur, on va pouvoir le répercuter sur les prix de sortie, mais c'est évidemment le signe aussi d'une filière qui s'inquiète.
À quoi aviez-vous attribué la hausse des coûts de construction ? Ça c'est un sujet dont on va beaucoup parler. C'était quoi ? Est-ce que quelque part la crise en Ukraine n'a pas eu un peu bon dos quelque part avec des industriels qui ont peut-être un peu, on va dire, certains industriels un peu exagérés.
Elle a été multifactorielle. Premièrement, elle a été liée quand même à des difficultés d'approvisionnement, donc à des difficultés de pénurie de matériaux. Il y a eu aussi la crise de l'énergie, l'augmentation des prix de l'énergie qui a été très forte. Et puis après aussi peut-être une saturation de l'outil du BTP en France, hein, qui faisait qu'effectivement, il y avait de l'activité et donc il y avait des prix qui pouvaient monter parce qu'on avait moins besoin d'activité. Donc effectivement, je pense que c'était plurifactoriel. Maintenant, ça a amené la réaction des banques centrales avec la baisse des taux, qui nous a complètement pris en ciseaux. On est sur des temps qui sont longs, donc on a sur des prix de foncier qui ont été négociés avant crise, on a eu la hausse des taux, on a la solvabilisation des ménages.
Et l'inflation, bien sûr, qui a désolvabilisé une partie,
exactement.
Une partie des accidents. Merci Mathieu. Marc Verica, je suis ravi que vous soyez là. Parlez-nous de l'histoire de votre groupe, qu'on vous connaisse mieux.
Alors, on est bien sûr, notre premier métier c'est promoteur, mais c'est surtout la pierre de taille, comme on va le souligner, ce matériau qui est exemplaire et qui est national déjà dans un premier temps. Et puis on s'est dirigé vers plutôt le sens de la ville, en fait, le reconstruire la ville de demain et comment la reconstruire par rapport à cela. Et l'idée qu'on a eue durant toutes ces années, et je suis assez content du résultat aujourd'hui, c'est changer et devenir un acteur immobilier au sens propre, c'est-à-dire décider sur l'ensemble de la chaîne de construction pour mieux maîtriser les coûts, mieux maîtriser la demande et mieux maîtriser le prix de sortie. C'était important, je pense, de contrôler un ensemble plus important que juste d'être promoteur. En général, on dit que le promoteur est non sachant. Moi, j'ai toujours répété que j'étais sachant parce que ce que je construisais, je savais le construire. Voyez. Et ça, c'est mon idée de constructeur, bien sûr, dès le départ. Hein. J'ai un papa tailleur de pierre, donc je pouvais pas non plus ne pas l'être.
C'est génial. Voyez.
Mais on a au-delà de la taille de la pierre, c'est un prisme. Cette pierre, c'est cette qualité qui est autour de ce matériau qui fait qu'aujourd'hui, on veut maîtriser l'ensemble de cette qualité sur toute la chaîne de construction. Et puis, l'autre point également, et je pense qu'on va en parler aussi, c'est le parcours résidentiel. Je pense que le parcours résidentiel en France n'est plus du tout celui qui est adapté au monde de demain. Vous voyez, quand on parle de 70% de logement social, les gens sont accessibles à 70% de logement social, je pense qu'il faut revoir le parcours résidentiel et s'occuper et remettre le logement au cœur du débat. Ça doit revenir pour nous vraiment une priorité nationale. On me posait la question dernièrement au trophée du logement des territoires, si je devais être ministre du logement, ce que j'aurais pu dire, j'aurais dit je me rapproche du ministre de l'industrie. Et on m'a dit mais non, chaque ministre a sa partie. Et je dis écoutez, pendant 30 ans, il y a 30 ans on a dit l'industrie ça sert plus rien en France, et aujourd'hui on nous dit que le logement ne sert plus rien. Ça sert plus à rien. Donc je me suis dit que aux deux, on arrivait à faire quelque chose de plus systémique et d'allier les forces justement. Et quand on parle de réindustrialisation, on parle forcément de logement. Et de logements proches des usines et de l'industrialisation. La preuve, regardez, vous citez les chiffres, de 17%. Donc je pense qu'il y a une conscience nationale qui doit être faite, et il faut s'y préparer, et avoir un outil qui permette de répondre à cette demande.
Est-ce que cette crise vous a aussi impacté avec le modèle économique qui est propre au groupe Verecia, particulièrement, et d'ailleurs, vous avez acquis de nouvelles carrières qui donnent une amplitude à votre groupe inégalée, puisque vous êtes passé du stade régional au stade national. Votre terrain de jeu maintenant, c'est la métropole, hein, c'est la France, c'est l'Hexagone. Est-ce que, justement, compte tenu de votre façon de traiter cette concession de promoteur, mais aussi quelque part cette vision artisanale que vous avez à soigner ces immeubles. Alors j'en suis témoin parce que j'ai inauguré l'un de vos immeubles à Rosny-sous-Bois en présence du maire, un très très bel ouvrage et pour tous, parce que je voudrais souligner aussi le caractère abordable
et pour tous.
Voilà. Et d'ailleurs, je pourrais même paraphraser la phrase de Nietzsche qui dit que finalement le bien est un élément du beau et il est accessible à tous. On peut dire les choses comme ça. Alors justement, est-ce que vous très franchement, vous avez été impacté par ce qui se passe depuis maintenant 18 mois.
Écoutez, je pense que tout le monde a été impacté à différentes échelles, mais on ne peut pas ne pas être impacté.
Vous avez enregistré des baisses de réservation
extrêmement rapide, avec tous les éléments. On a eu le taux, on a eu les augmentations en un an de temps. Alors c'est vrai que tout ça peut s'anticiper, mais pas aussi vite et aussi rapidement. Nous, ce qu'on avait vu en 2022, déjà, c'était qu'on voulait maîtriser cet ensemble de chaînes pour toujours avoir un prix abordable, rendre la pierre de plus en plus abordable, l'industrialiser, et c'est ce qu'on a fait à travers cet achat de carrière avec le numéro un mondial de la pierre naturelle, quand même, hein, qui est canadien. Donc on a un partenariat industriel avec ces personnes-là qui ont décidé de racheter avec nous le groupe Rocamat qui possède 30 carrières sur le territoire national. Donc c'est ce changement d'échelle qui est important. Oui, bien évidemment, ça nous a permis de mieux contrôler le prix. L'idée que l'on avait, et je pense que c'est important, c'est la matière première. Parce que on a bien vu, et ça nous a donné raison, la guerre en Ukraine, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, mais sur le principe de dire que les coûts de matériaux augmentent, c'est vrai que c'est aussi une excuse, c'est vrai que ça a été aussi forcément généralisé sur l'ensemble.
Bah, hein, ça a quand même été pointé du doigt pour le monde agroalimentaire, par exemple.
Voilà, des exagérations qui ont été faites. C'est quand même. Voilà. Je veux dire, on avait l'impression que tout venait d'Ukraine.
Oui.
D'ailleurs,
oui.
Je vais vous dire.
Vous êtes d'accord.
Lorsqu'on faisait, parce que nous, on est national, et la pierre de taille. Sur le territoire, au niveau national, il y a de grandes réserves. On en parlait tout à l'heure, c'est plusieurs siècles de réserves sur le territoire national. On n'a pas sur 10 ans, on n'est pas sur 30 ans, on n'est pas sur 50 ans. On est sur plusieurs siècles. Je fais visiter les carrières en disant, ne vous inquiétez pas, nous allons passer donc le département de l'Oise. Ça ne s'appelle pas l'Ukraine, donc on ne prend pas 30% d'un seul coup. Et si vous voulez, c'était aussi important. C'est pour aussi faire réagir. Parce qu'il y a un moment, il faut que ça s'arrête.
Oui, je suis d'accord.
Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas non plus que quand on a besoin d'augmenter de 10 centimes, on mette 40 centimes. Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment vraiment se tirer une balle dans le pied, voire une balle dans la tête.
On est d'accord. Merci pour cette précision. Justement, on en a parlé tout à l'heure. Et j'aimerais qu'on titre cette phase du débat exemplarité et logement abordable. Autrement dit, je vais traduire, est-ce qu'on peut faire, je disais, du bien, du beau, de la qualité, en étant abordable? Vous avez dit une chose tout à l'heure, Yannick, qui est très juste. Vous avez parlé des classes sociales. Des classes sociales, notamment des classes moyennes. Eh bien, c'est celles qui sont le plus impactées par, effectivement, la crise du logement. Vous le savez, par les problématiques de rotation dans le parc locatif privé, mais aussi dans le parc locatif social, que vous connaissez particulièrement, parce que vous faites partie de la fédération des OSH, notamment. On a l'impression que cette classe sociale, les classes moyennes, est en train d'avoir, vous savez, cet effet de relégation sociale, de descendre. Alors, ça, c'est un effet qu'on pourrait analyser comme ça. Mais on est allé plus loin. À Radio Immo, on a fait un sondage auprès d'un peu plus de 1500 répondants qui ont été profilés, entre guillemets, ça se dit, c'est très à la mode de dire ça, pour déterminer ce qu'on appelle une classe sociale avec revenus, configuration de la cellule familiale, etc. On a aussi tenu compte des problématiques de décohabitation dans cette analyse, qui est un vrai phénomène de société. J'allais dire même une mutation anthropologique et urbaine qui touche tous les pays, et le nôtre en particulier. La première question qui vient à l'esprit, la première réponse qu'on leur pose, que craignez-vous, c'est la relégation sociale, c'est la perte de revenus, c'est la perte du repère. Et quand on leur dit qu'est-ce qui illustre, et la question qu'est-ce qui illustre pour vous cette chute dans ce phénomène de relégation sociale, et ben c'est le logement. Qui arrive en premier.
Mais tout à l'heure, on évoquait le parcours résidentiel. Je pense que c'est à travers ça qu'on, à travers la brutalité de l'arrêt un peu du parcours résidentiel, qu'on peut illustrer tout ce qui se passe et qu'il y a ce ressenti-là. C'est-à-dire celles et ceux qui sont logés dans le parc social, qui aspirent à accéder à la propriété, il y a encore 3-4 ans, pouvait accéder à la propriété, et puis celui qui s'était fait son premier logement, puis les enfants ont grandi, sont partis, se refait une autre acquisition. Enfin, on a ce schéma-là qu'il faut qu'on arrive à reconstruire. Donc aujourd'hui, il est rompu. Tout à l'heure, quand je parlais de vitrification du parc locatif, ça vaut dans le parc social comme ça vaut dans le parc privé, ça ne tourne plus, ou ça tourne beaucoup moins. Donc automatiquement, le parcours résidentiel, il est aujourd'hui à l'arrêt, ce qui fait qu'il permet pas non plus à ceux qui devraient rentrer d'un côté de la chaîne d'y rentrer et de progresser nécessairement. Donc, et cette classe moyenne, on pouvait se dire à un moment donné que ceux qui ne pouvaient pas espérer au parc social étaient les plus modestes et les plus précaires. Le problème, c'est que cette notion de je ne peux plus accéder au parcours résidentiel, elle a dérapé et elle touche aujourd'hui des gens qui, les couples, qui ont deux salaires, deux SMIC et demi, de trois SMIC dans un couple, qui il y a encore 3-4 ans, 5 ans, arrivaient à accéder à la propriété. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Alors, effectivement, le taux d'intérêt va jouer, le prix de l'immobilier a joué. Tout à l'heure, Mathieu évoquait le comportement des banques qu'on a beaucoup vu ces derniers temps, qui nous ont dit, je cite le terme qui est employé à plusieurs reprises ces derniers temps, que les robinets sont ouverts. En même temps, les crédits, les conditions d'accès se sont un peu aussi durcies. Donc, voilà, tout ça est un peu percuté. C'est en train de se restabiliser. Nous, on ressent dans le réseau depuis le début de l'année un petit peu plus de flux, de contacts et de demandes. De là à passer à l'acte de je signe en l'acquisition où je prends le risque d'y aller, c'est encore un petit peu plus difficile. Mais et puis il y a ce côté que j'évoquais tout à l'heure, un peu attentiste, c'est-à-dire être attentiste, ça a une limite. Donc ceux qui se disaient il y a 6 mois, 7 mois, 8 mois, je vais attendre un peu, ça va peut-être baisser, les stocks vont peut-être faire en sorte que les promoteurs vont peut-être un peu baisser les prix. Bon bah au bout d'un moment, faut quand même y aller quoi. Si on a besoin de se loger ou si on a besoin de trouver quelque chose, faut quand même faire le pas. Donc on est peut-être au bout de l'attentisme. Mais on voit bien que il va falloir recaler aussi ce que je disais tout à l'heure, nos montages, nos approches, la notion de beau, d'abordable, c'est quoi la capacité d'investissement.
Alors justement, est-ce que le modèle coopératif Yannick Borde, c'est une question qu'on à mon avis beaucoup vont vous poser. Est-ce que ce modèle-là finalement dans un contexte comme celui-ci finalement n'est pas parfaitement adapté?
Je vais vous répondre oui.
Parce que non mais
je serai Mathieu complété, mais... Non, mais
je vais aller oui justement je vais avoir votre vision, mais parce que vous êtes président du réseau, mais vous êtes aussi l'un des membres du réseau coopératif.
C'est-à-dire ça,
que
dans
vous
le statut coopératif, la gouvernance est aussi acteur.
Un homme, une voix, hein, c'est bien ça. Voilà. Donc, est-ce que finalement, ce renforcement, cet esprit coopératif, il n'y a pas d'actionnaire à servir en particulier, permet-il pas de résister un peu mieux?
Bah, nous, il y a plusieurs choses qui font qu'on résiste. C'est-à-dire là, j'ai les premiers chiffres à peu près définitifs de 2023. Le réseau fait moins 15.
Oui.
On s'en tire plutôt pas trop mal par rapport à la tendance générale.
Bah, deux fois mieux que le marché.
Voilà. Donc, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que nous, on a un ancrage territorial très décentralisé. Donc avec une présence forte sur les grandes métropoles, mais des présences aussi fortes sur des villes de taille moyenne. Donc tous les marchés réagissent pas avec la même violence quand ça se passe pas. Et puis on a une particularité, je le dis sans être gêné, c'est quand les marchés sont hyper actifs, on est un petit peu moins actifs que le marché. Quand ils font plus 10, on fait plutôt plus 7. Par contre, quand ils se cassent la figure, on est aussi décalé dans les mauvaises tendances. Donc c'est comme ça. L'autre avantage du statut coopératif, c'est la proximité territoriale, parce que nous, on est dans un statut de SCIC, société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire qu'on est en proximité des collectivités sur notre quotidien, mais aussi, elles sont dans un des collèges de notre actionnariat. Alors. Et puis, l'autre grande particularité, ça, c'est une pression que nous, on n'a pas, on en a comme tous les autres sur le modèle économique de nos activités, mais il n'y a pas d'accès aux réserves, nous, de la part des actionnaires, c'est le monde coopératif mutualiste. On n'a pas la pression d'un cours de bourse, on n'a pas l'impression d'un actionnaire qui va réclamer la même distribution de dividendes en 2023 qu'en 2022. Donc, on a la capacité.
Vous êtes ce qu'on appelle inopéable par nature.
Finalement. Oui, on a la capacité à temporiser par rapport à ça, et à accepter.
Est-ce que le jeu de la solidarité fonctionne dans un réseau coopératif? Bah,
dans un réseau,
entre les plus fragiles et ceux qui s'en sortent le mieux.
Il y a une solidarité. J'allais dire de fait, parce que d'abord on est 46, donc c'est pas non plus, on n'est pas 10 000.
Ouais, c'est pas mal.
Donc on est
46 entreprises. Hein,
46 entreprises, 3500 salariés.
Ouais, quand même 3500 salariés. Voilà.
Mais je veux dire, entre dirigeants, Mathieu en est un, j'en suis un, il y en a 44 autres, on se connaît, on se côtoie, on connaît à peu près les situations des uns et des autres, donc on est capable de travailler ensemble et on est capable de se soutenir dans des moments et surtout de partager, ce que moi j'essaye de faire avec l'animation des directions opérationnelles que l'on fait avec la direction générale de Procivis USAP depuis quelques temps, de remonter très régulièrement les ressentis de terrain, etc.
Bien sûr.
Après, dans un réseau, c'est un peu comme dans une chaîne, c'est-à-dire que s'il y en a un qui est un peu plus fébrile ou fragile que les autres, ça peut être un peu le maillon faible du réseau, donc on doit travailler avec lui et l'accompagner. C'est ce qu'on essaie de faire. À l'heure où on se parle, il y a des situations financières, pas de situation financière préoccupante. On a une société qui historiquement est tendue, mais elle était avant la crise, donc on a essayé de la redresser et puis on s'est pris la crise, donc c'est un peu plus long que prévu. Sinon, voilà, on a aussi une histoire, nous, c'est-à-dire que les premières sociétés sont nées en 1908. On a fait beaucoup d'années de crédit, même si les dirigeants ont beaucoup changé, mais on a quand même une culture du risque qui est celle qui est la nôtre. Et puis Mathieu est plus à même en parler que moi parce que lui, il est dans son groupe, contrairement à moi, et il a la gouvernance d'un organisme HLM.
Oui.
Et donc on a aussi cette culture-là de la prudence et de l'accompagnement. Donc tout ça fait que en ce moment, comme tout le monde, on aimerait mieux être plus dynamique et plus actif, notamment sur le plan commercial. À la différence peut-être d'autres acteurs, c'est que moi je suis pas spécialement inquiet sur notre capacité de relance quand ça va repartir. T'sais, on en a, je pense, pas mal dans le pipe, comme on dit dans notre métier. Après, évidemment, à un moment donné, il faut que ça sorte du pipe.
Vous permettez une question un peu directe? Est-ce que vous avez été contraint, comme certains entrepreneurs dans le métier de la promotion immobilière, de licencier des collaborateurs?
Alors nous, ça s'est pas fait sous cette forme-là, parce que d'abord, quand on dit 3500 avec 46 sociétés, on est plutôt 46 TPE. Par contre, on est très clair, quand vous avez un collaborateur aujourd'hui qui démissionne ou qui s'arrête...
Vous remplacez pas?
Bah, on fait attention, c'est-à-dire que ça dépend de la fonction. Il y a des fonctions, notamment les fonctions de développement. Enfin, moi, si je prends le groupe que je dirige, des fonctions de développement, on remplace. Des fonctions plus transverses, on peut se dire, on va attendre un petit peu. Pour autant, nous, il n'y a pas de temps sociaux dans les
donc
structures.
Il y a des
ajustements, parce que quand vous êtes un groupe à faire... Le réseau faisait 10 000 logements en 2022. Il en a fait plutôt 7 500 l'année dernière, 8 000. Et puis, on est sur deux métiers, nous, dans la construction. On est sur la promotion immobilière et sur la construction de maisons individuelles en contrat de construction, ce qui est deux choses très différentes. Le CMI, c'est quand même un sujet assez préoccupant, beaucoup plus que la promotion immobilière, à mon avis. Et donc, bien évidemment, quand vous êtes dans un groupe où la toile, elle est plutôt à 400, 350, 400 logements, et que vous êtes descendu à 250 ou 300 pour pas mettre en péril la structure, bah, si vous avez un développeur foncier qui s'en va, peut-être que vous attendez avant de le remplacer. Si vous avez un conducteur d'opération qui s'en va, vous attendez peut-être un peu avant de le remplacer. Mais voilà, donc, C'est un peu ce que j'ai dit la semaine dernière. J'ai eu la chance de rencontrer le ministre du Logement jeudi. Donc c'était à la suite des grandes annonces des grands promoteurs, tous sans exception, avec la restructuration. À côté, il y a beaucoup plus d'opérateurs modestes dans lesquels nous, on se place, puisqu'on est plutôt une somme d'opérateurs modestes dans lesquels ça descend de quelques unités sans que ça se voit nécessairement, mais que ça descend quand même, on fait un peu gaffe. Voilà, donc tout ça est en train de s'ajuster.
Et Mathieu, justement, ce modèle coopératif, une réaction ?
Oui, enfin, je souscris bien entendu à tout ce que vient de dire Yannick. Il y a un élément peut-être supplémentaire que je peux ajouter, qui est que structurellement, on est moins dépendant du marché des investisseurs. On a beaucoup plus une clientèle propriétaire-occupant et qui est beaucoup plus stable. C'est vraiment la clientèle investisseur qui a complètement chuté et qui a fait dévisser le marché. Donc ça, c'est aussi un élément de stabilité dans les périodes difficiles.
Et le fait justement de fonctionner avec une coopérative, alors c'est important ce que vous avez rappelé, que vous avez une double casquette finalement, parce que vous êtes aussi à la tête d'un organisme de logement social. Est-ce que ça vous donne, est-ce que quand vous prenez la température dans votre secteur, vous êtes particulièrement inquiet justement pour les situations sociales parfois désespérantes, très dures. À l'époque, vous m'en aviez parlé déjà. Et là, en situation de crise, je suppose que ça ne s'est pas amélioré.
Non, ça ne s'est pas amélioré. Hein. Effectivement, le logement social, on en manque cruellement, et en particulier sur le littoral ligérien. Donc, il y a maintenant des attentes importantes. Et donc, les sélections qui devaient être faites pendant les attributions qui sont faites dans les situations les plus complexes.
Bien
donc,
sûr.
Effectivement, on a structurellement un parc qui concentre de plus en plus les difficultés. C'est inévitable.
Merci Mathieu. Alors à l'épreuve du modèle du groupe effectivement Verecchia, qui est une véritable, j'allais dire, une singularité dans le paysage de la promotion immobilière, on peut le dire d'ailleurs, vous la revendiquez assez bien, à la fois par votre nature mais aussi par votre vision. Est-ce qu'on peut concilier, Marc Verecchia, exemplarité et logement abordable, vraiment ?
Alors, la première de la définition que j'aborderai déjà, c'est faut bien se rappeler que le logement, ça doit être beau. C'est-à-dire qu'on fait les choses pour qu'elles soient belles et pour que le bien-être soit aussi réel dans les générations à venir et dans le présent. Parce qu'on parle beaucoup de bas carbone, on parle beaucoup de choses, mais nous, chez Verecchia, c'est d'abord le beau et le bas carbone, ou toute l'exemplarité qu'on doit avoir derrière sur le logement, eh bien, ça vient dans nos cases, mais c'est pas l'unique case. Donc le beau pour nous est la chose la plus importante, et l'architecture aussi. On parle pas d'architecture. Enfin, je veux dire, si c'est pour faire des choses qui se ressemblent les unes aux autres ou d'un pays à l'autre, on a aussi une singularité en France. On doit aussi respecter et être dans cet avenir-là. Après, l'abordable, eh bien, c'est ce que on disait tout à l'heure. Je pense que il faut savoir sélectionner les choses, contrôler une chaîne, et nous, c'est ce qu'on a voulu faire, plus importante, sur la totalité de la chaîne, pour conserver quelque chose de compétitif. On a aussi industrialisé, parce que, évidemment, si vous restez au secteur ou dans, le côté artisanal de la chose, bien que la pierre soit aussi artisanale, eh bien, on a industrialisé les choses. Et puis, on a couplé les choses, alors notamment avec le bois, parce que pour nous, c'est le bon matériau au bon endroit, hein, c'était ça l'idée, et d'associer ces choses-là.
Intéressant, le bois, parce que tout le monde en parle, hein, tout le monde fantasme là-dessus.
Oui,
est-ce que le bois, ça va devenir véritablement un peu
alors, le bois, il est...
On a l'impression même que les politiques font la promotion des filières.
Oui, alors, voilà, je pense que il y a des équilibres à faire, parce que quand vous êtes sur un choix unique, eh bien, il y a aussi pénurie, il y a augmentation des prix. Et je ne pense pas que le bois réponde à toutes les questions de l'avenir. Je pense que les associations entre les matériaux répondent à la question de l'avenir. Je ne veux pas vendre de la pierre partout. Je dis simplement que la pierre de taille a une inertie forte sur l'extérieur, qu'on est en plein réchauffement climatique, a priori, je pense que tout le monde va le confirmer, et que personne, je dis toujours, si on a Tata Morissette ou Tata Janine qui a sa ferme en plein milieu de la Creuse, personne ne pourra dire que l'été dans cette ferme qui est faite en pierre de taille, parce qu'on parle toujours de la pierre de taille dans les éléments chers, une ferme, ça reste simple, eh bien, on n'a jamais chaud dans un élément
très
de taille. Donc le côté aussi inertie et capacité à rentrer dans l'avenir pour ces choses-là doit prendre être pris en compte. Et après le côté abordable, eh bien évidemment, ça reste le sujet principal des choses. Mais il faut pas oublier l'avenir et la transmission de ce qu'on va donner.
Quand vous dites que vous rationalisez par l'industrialisation, vous avez raison, pour passer à l'échelle effectivement. Et, oui. Et vous êtes l'incarnation du groupe typiquement familial, détenu encore par la famille.
Absolument.
On espère que ça continuera longtemps et que vous rejoindrez, le cercle des Enochiens. Vous savez, les Enochiens, vous connaissez le cercle des Enochiens, sont des entreprises tenues par des familles depuis plus de deux siècles. Oui. Voilà, donc voilà, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a une cinquantaine en France qui ont su résister. Est-ce qu'on peut dire finalement que le pari que vous aviez pris dès le départ de la construction de votre groupe, vous avez rappelé d'ailleurs à juste titre que votre papa était tailleur de pierre, ils ont construit, hein, toutes ces générations qui ont construit notre pays, finalement dans cette pensée de la décarbonation, finalement, vous dites, il y a une espèce, ben c'est vrai, une aliénation, ça s'aligne les planètes là complètement. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de vertus dans ce que vous dites.
Tout à fait.
Alors, maintenant, je vais faire mon journaliste forcément. Vous épuisez une ressource finalement dans une carrière pour servir dans quelque chose qui finalement est positif pour l'environnement, qui est le confort d'hiver et le confort d'été, ce que vous avez rappelé.
Tout à fait.
Quelque chose de très important, parce qu'on a beaucoup bassiné, vous savez, avec les problématiques thermiques l'hiver, avec le chauffage.
Pas traité l'été,
oui. Je peux vous dire que quand on boit les étés en ce moment, c'est pas neutre dans l'acte de construction. Bon, on est d'accord là-dessus?
Oui, tout à fait. Alors, on dit toujours que la pierre de taille, c'est une vraie climatisation naturelle.
C'est vrai.
C'est une vraie clim naturelle, dès le départ. C'est-à-dire que l'été, on va pas mettre la clim dans les logements. Moi, je pense que c'est très important, si vous voulez, de gérer cette solution-là.
On met pas de clim dans les...
Bah, écoutez, nous, on a...
Dans vos résidences, dans vos immeubles?
Pour l'instant, on n'a jamais mis de climatisation et les gens ne s'en plaignent pas. Ils sont même satisfaits l'été de se dire qu'ils sont au frais. Mais c'est grâce à cette inertie. Faut rappeler quand même que quand on pose un bloc de pierre de taille, ça fait entre 23 et 27 centimètres d'épaisseur. C'est pas un parement.
Ah oui.
C'est une vraie pierre qui a cette ressource naturelle d'avoir cette inertie. C'est pour ça que sur l'extérieur, on pense qu'elle est incontournable, mais qu'elle est la meilleure des choses. Et l'association du bois et de la pierre entre l'extérieur et l'intérieur nous paraît une évidence. On a des connectivités qui sont entre ces deux matériaux qui sont hyper performants.
Alors, est-ce que ce matériau, je vais revenir là-dessus, est accessible à tous?
Alors, bien évidemment.
Les primo-accédants ont des revenus très faibles. Vous savez que la moyenne de transaction dans notre pays est légèrement en dessous de 200 000 euros. Que c'est la dépense, je ne vais pas vous le rappeler, mais vous le savez déjà, la première dépense contrainte des Français, et que les Français en primo-accession plébiscitent l'accès à la propriété qui n'a cessé de reculer à cause des...
Tout à fait. Alors, vous parliez du bois tout à l'heure. Oui. On a quand même comparé avec Franck Matisse les choses. Le bois, la pierre, même combat, même prix. Si vous voulez. Parce que on pense que la pierre, bien sûr, on a fait des monuments emblématiques qui sont là encore pour le dire et pour demain. Donc les gens associent cette chose-là à du cher. Mais je rappelle que la pierre de taille, elle a été utilisée pendant des siècles. C'est juste sur les 70 dernières années qu'on a mis la place du béton et qu'on a donné au béton la place qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être, puisqu'on est évidemment sur de l'abordable, mais aussi de l'environnemental. Donc il faut associer ces deux choses-là qui sont importantes. Et la pierre de taille, eh bien oui, vous avez raison, mais comme tous les matériaux qui sont un peu uniques, devenaient chers à ce moment-là parce que pour l'extraire et pour la sortir, eh bien il y avait très peu de demandes. Donc le fait de l'industrialiser et de la rendre effectivement plus unique, mais sur le territoire national accessible, eh bien la rend complètement abordable. Vous savez, moi j'ai commencé en 1990, juste avant la première crise.
Ah ouais.
Allez, à un centimètre de la première crise. Donc j'ai pris les trois. Et en 34 ans de temps, j'ai fait plusieurs choses. Un, j'ai toujours construit avec de la pierre de taille sur les extérieurs. Deux, j'ai ravalé aucun bâtiment. Ça fait 34 ans qu'on pose de la pierre qu'on a
aucun.
Ravalé. Aucun. Aucun. Pourquoi? Parce que, eh bien, la pierre de taille, on la protège, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de coulure, qu'il n'y ait pas de ceci. Donc c'est aussi le beau qui perdure, hein, et qui peut se recycler. Et puis, j'ai construit au départ en Seine-Saint-Denis, mon département de naissance et d'origine.
Oui.
Et vous savez, quand j'étais jeune et que j'entendais mes parents ou mes grands-parents qui sont arrivés à Aubervilliers en 1925 dire qu'on était les oubliés, je me suis dit, c'est pas parce qu'on est dans le 93 ou dans Seine-Saint-Denis qu'on doit pas avoir des logements de qualité. Et ça fait 35 ans que je me bats là-dessus. Et le fait d'industrialiser, le fait de pas rationaliser, mais d'étendre les choses et de prendre une grande capacité, permet de rendre les choses abordables. Mais autant que le bois. Sauf que nous, on a un avantage. C'est en France, c'est un savoir-faire national, c'est un produit français. On réindustrialise sur notre territoire.
Mais oui.
Avec une matière première qui est sur notre territoire. Donc les guerres, on s'en fiche. Les problèmes extérieurs, on s'en fiche.
Vous êtes d'accord là-dessus?
Oui, j'écoute avec beaucoup d'intention, parce que nous, on n'est pas structuré, le réseau Procivis, pour être sur toute la chaîne. Donc c'est pas notre histoire, c'est pas notre culture. J'ai presque tendance à dire, c'est même pas nos statuts, nos possibilités juridiques. Donc,
et peut-être que dans un nouveau périmètre,
oui,
une évolution.
Que, donc, c'est pour ça qu'on voit bien que l'intégration, à un moment donné, de la chaîne, elle se pose quand même sur pas mal de sujets. Et à un moment donné, quand on a vu ces derniers temps, par exemple, la crise agricole, on peut se dire qu'on a à peu près les mêmes. On a à peu près le même contexte entre les injonctions contradictoires, entre les normes, cette chaîne où tout à l'heure on parlait des causes de la crise. Où, alors c'est un peu inversé par rapport à l'agriculture. Tiens, l'agriculture, c'est au début de la chaîne que ça souffre. En immobilier, il y a quand même quelques fabricants de matériaux et négociants qui, pendant la crise, ont fait des résultats quand même assez exceptionnels. Donc,
je suis d'accord avec vous.
Voilà, donc. Il faut qu'on arrive peut-être à se reparler un peu plus. Après, ce qui est assez difficile aujourd'hui, je trouve quand même. Alors nous, on a peut-être moins la culture technique, mais c'est que tous ces enjeux autour de la décarbonation, la performance énergétique, les nouveaux matériaux, le biosourcé, enfin toute cette notion-là. Moi, je m'interroge encore. Alors c'est vrai que le client, il veut du beau, mais à un moment donné. Il y a la contrainte budgétaire qui est quand même là, donc on a encore à travailler cette partie-là. On a un ministre qui a annoncé de la simplification, un certain nombre de choses par rapport à ça. Alors pas au détriment, bien évidemment, de la technique, mais comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que à quel endroit de la chaîne on arrive à trouver la petite économie alors, qui fera que demain on arrivera.
Justement, je voulais aborder avec vous cette notion politique, puisque il n'a échappé à personne que vous aviez fait un poste il y a quelques semaines, avec le ministre. Vous étiez tout souriant, sur la main de Guillaume Kasbarian, une bonne tête. Ouais. Une bonne tête. Il a vraiment une bonne tête. Et je comprends, hein, je comprends que vous écriviez, oui, je me félicite.
J'ai pas écrit ça. Hein,
non, mais pas. Vous dites, un ministre à l'écoute.
Bah écoutez, moi, j'en ai vu plusieurs.
Parce que vous aviez dit la même chose à chaque fois sur un ministre.
Non, je suis pas sûr. Non, non.
Alors, regardez vous espérez, bien, je suis pas sûr. Non, ma question, alors attendez, je vous prends pas au piège. Hein. Mais ma question, c'est, vous espérez, vous, qui êtes un peu un élu aussi, et qui quand même connaissez bien les arcanes politiques, espérez-vous encore, et ça je me permettrai de vous poser à chacun la question, espérez-vous encore quelque chose du pouvoir exécutif? Je m'explique. Quatre gouvernements depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron. Quatre gouvernements. Deux mandats présidentiels, cinq ministres du logement. Le plus court a battu tous les records, puisque c'est Patrice Vergriete, qui était très bon chez logement, et puis d'un seul coup, il s'est retrouvé au transport en moins de 5 mois. On peut dire qu'il a toujours un portefeuille, bien évidemment. On a du mal à comprendre la logique. Je sais que politiquement, vous êtes assez engagé. J'aimerais avoir votre retour très, très, très direct quoi, sur cette question.
Non, mais moi, j'ai pas de problème avec pour faire un retour là-dessus. Je vais reprendre ce que disait Mathieu tout à l'heure. Nous, on n'attend pas tout de l'État. Ça, d'abord, c'est pas notre histoire, c'est pas notre
ce que
culture.
Je voulais dire, hein.
Non, mais je préfère le dire aussi parce que aujourd'hui, on pourrait laisser penser parfois que les acteurs, quand ils se mobilisent, quand ils communiquent sur la crise, c'est l'État. C'est pas du tout ça.
Mais
d'ailleurs,
l'État n'était pas obligé de raboter. Excusez-moi.
Non, mais d'accord.
PTZ, après,
mais
l'État n'était
ce qu'on
pas
lui
obligé
dit.
De mettre fin, de baisser les APL. L'État n'était pas obligé de mettre
c'est
fin.
C'est ce qu'on
Pinel.
Lui dit. C'est ce qu'on lui
voilà.
dit. C'est que ils aujourd'hui, il a pas beaucoup de leviers. C'est-à-dire, on est voilà. dans un pays démocratique, libéral. Quand l'État dit choc de l'offre, moi je vois pas sur quoi il a beaucoup d'effets de levier sur l'offre. Quand on lui demande de travailler sur la demande, il a pas beaucoup non plus de
Merci.
Capacité à agir. Alors, et il n'est pas obligé par contre de prendre de mauvaises décisions sur un certain nombre de sujets. Et c'est vrai que celle, nous, qui Mathieu disait tout à l'heure que nous, notre réseau, on est plus positionné sur la question de l'accession à la propriété, on considère que la notion de ce qui a été décidé sur le PTZ, qui est uniquement décidé sur un angle budgétaire et en aucun cas sur un angle d'aménagement du territoire et de répondre aux besoins des Français, est une mauvaise décision. Donc le poste auquel
comme celui de réduire d'un milliard d'euros l'aide à ma prime
du week-end dernier. Moi, j'ai rencontré effectivement Guillaume Kasbarian jeudi. J'ai eu en face de moi un ministre concerné. Écoutant, sincèrement, reprenant un certain nombre, nous demandant de documenter un peu plus, peut-être, un certain nombre d'argumentaires qui sont les nôtres.
Il vous a pas commandé un nouveau rapport? Non.
Non, mais on fera pas un CNR bis, je pense pas.
Non, je vous taquine.
Mais ça, c'est aussi comme ça. Après, j'avais d'autres rendez-vous dans la même journée, sans dire avec qui nécessairement, mais aussi avec des gens qui pèsent aujourd'hui dans le paysage local, politique, local, je parle immobilier, la prise de conscience, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas très dur, vous me direz, vu les résultats, mais ils le reconnaissent.
Ouais, okay.
Voilà. Non, mais ça vous fait rire, mais à un moment donné, il faut bien passer par des
Yannick,
étapes.
On l'a souvent vu, vous et
oui,
moi.
Oui, mais non. Non, je vous dis, pense que non. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des phénomènes un peu nouveaux. C'est-à-dire quand vous avez la courbe du chômage qui commence à s'inverser, quand vous avez la précarité qui est quand même qui est devant nous tous les jours. Il peut se passer des choses. Moi, il y a un seul élément sur lequel il va falloir qu'on travaille tous. C'est ce débat que moi je considère un peu pipé le fait qu'on ne parle que du volet budgétaire dépenses du logement et jamais du volet recettes. Quand le ministre de l'économie dit en novembre qu'il lui manque 3 milliards de TVA par rapport à ce qu'il avait prévu, peut-être qu'il y en a quand même une grande partie qui vient du logement.
Merci. Bravo.
Donc il faudra à un moment donné que tout ça on arrive à bien le documenter, à bien et peut-être être capable de peut-être un peu plus tous ensemble, quand je dis tous ensemble, c'est toute la famille des acteurs, de toute la chaîne, c'est que quand on construit pas 20 000 logements, ou quand il en manque 20 000, ça fait tant de recettes en moins pour tout le monde. C'est pas que l'État, c'est aussi les collectivités. Et moi, que vous me présentez avec mes deux casquettes, je m'ai dit à mes petits copains, quand même élus locaux, qu'ils ont pas beaucoup soutenu le logement, et ils l'ont soutenu quand ils ont commencé à préparer leur budget 2024 avec l'effondrement des droits de mutation.
Des droits de mutation, absolument.
Donc voilà, donc il faut que tout le monde soit cohérent et on va y arriver.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je remarque bien, évidemment, le sens très... côté politique aussi, moi je dirais que... On a calculé le nombre de rapports sur le logement, sans compter le CNR. Vous diriez combien à peu près?
Non, mais vous allez me piéger, donc...
Non, mais voilà, 27.
Ouais, mais bon.
Vous savez combien il y a eu de rendez-vous, de commissions, etc. 200.
Oui, mais bon.
200. Et à chaque fois, on a dit, on va documenter et produire des nouvelles données. Non, mais je connais votre action très opérationnelle. Parce que vous avez la particularité, si je devais faire une analogie, c'est d'avoir l'air et la chanson. La musique et les paroles. Parce que vous construisez quand vous retournez dans l'Ouest et que vous êtes la tête dans le guidon au quotidien et que les politiques, quelque part, paieront aussi le prix de cette négligence. Alors, j'ai deux choses que je voudrais aborder. Pour finir, là, il nous reste moins d'une dizaine de minutes. Je voudrais qu'on parle justement de cette notion d'attente des clients, de ceux qui achètent l'immobilier. Qui sont-ils aujourd'hui? À quoi ressemblent-ils? Compte tenu de tous ces bouleversements, à la fois anthropologiques, je vous rassure, on va pas faire de wokisme ici, mais des nouvelles formes aussi. On a parlé, par exemple, du phénomène de cohabitation qui a doublé c'est quand même pas neutre, hein, ça a doublé la demande de logement dans certaines régions. Absolument, avec une démographie qui est la même, puisque c'est une demande de logement beaucoup plus importante. Et enfin, je vais vous demander à chacun, en quelques mots, de donner un peu, un message sur comment vous voyez le marché 2024, si tant soit peu que vous ayez des éléments à nous dire là-dessus. Je vais commencer par vous, Mathieu.
Les attentes, on a un sujet majeur qui est le coût de la construction, le coût du logement aujourd'hui. Donc c'est ça auquel on doit s'attaquer en priorité et en ayant tous les acteurs allant dans la même direction. C'est pour ça qu'on est aussi heureux que l'État reconnaisse quand même cette crise, puisque au moins on est tous dans la même direction. Les acteurs, on est tous conscients du sujet. Les collectivités, je pense, depuis quelques mois ont compris qu'il y avait un vrai sujet, que l'État s'aligne. C'est collectivement qu'on peut trouver des solutions.
Vous espérez encore pour du gouvernement.
Ce qui est important, c'est qu'on aille tous dans le même sens, parce que chacun a sa part de solution et on a des injonctions qui sont très fortes. Il faut qu'on fasse du pas cher, il faut qu'on s'inscrive dans une stratégie bas carbone avec plus de biodiversité, etc., qui sont des enjeux majeurs. Il faut aussi qu'on fasse du beau, c'est aussi une préoccupation qui est légitime. Donc on a beaucoup d'injonctions et ça, il faut, pour trouver les solutions, c'est des solutions concrètes qui se trouvent au cas par cas et à chaque niveau de responsabilité. Au niveau des collectivités locales, on sait qu'il y a beaucoup de choses, de gains qui peuvent se jouer dans l'application du PLU, des documents d'urbanisme. Selon la façon dont on les applique, on peut avoir des équations économiques qui changent considérablement. Et puis nous, en tant qu'acteurs, sur la façon dont on arrive à mettre l'aval, et c'est un peu ce que vous faites dans votre groupe, qui remonte au niveau de la conception. En fait, quand on fait travailler d'emblée des entreprises, des concepteurs, des contrôleurs techniques, etc., tous pour trouver des solutions, c'est comme ça qu'on arrive à faire émerger de l'économie et puis qu'on arrive à concilier ces différentes attentes qui sont multiples. Et le logement, c'est normal, concentre beaucoup de préoccupations. Après, les attentes, quelles sont les attentes des consommateurs, enfin des acheteurs de logements,
et notamment
les nouveaux usages. Alors, les nouveaux usages, c'est il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Il y a un sujet quand même dont on parle assez peu, et je pense que c'est un vrai sujet quand on parle d'une trajectoire de décarbonation, c'est la question de l'utilisation des logements. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut qu'on soit performant sur nos réhabilitations, il faut qu'on soit performant sur la construction neuve. Je rappelle que la RE 2020, donc la réglementation qu'on applique depuis le 1er janvier 2022 dans nos permis de construire, est alignée sur la stratégie bas carbone. C'est le Haut Conseil au climat qui le dit. Donc en fait, on est à la hauteur et nos bâtiments sont tous exemplaires quand on fait du neuf. Mais après, on a aussi un sujet d'occupation de ces logements, c'est qu'on a beaucoup de sous-occupation. Et je ne parle pas de la sous-occupation des bâtiments vacants, parce que souvent, les bâtiments vacants ne sont pas aux bons endroits sur le territoire. Mais je parle en fait de la façon dont on peut optimiser des espaces à la suite de départs d'enfants, par exemple.
Un exemple.
Quand vous avez des enfants et ensuite les enfants quittent la maison, dans énormément de cas, et ça se vérifie statistiquement, en fait, vous conservez votre logement. Donc ce qui est tout à fait bien, ce qui est tout à fait normal. Mais en même temps, quand on prend un petit peu de recul, on se dit que c'est pas optimisé. Donc comment on fait pour créer des possibilités, donner envie à ces personnes de pouvoir laisser la place à des familles avec enfants, et puis pouvoir poursuivre leur parcours résidentiel avec des appartements bien placés, de qualité, etc.
Vous pensez que c'est possible qu'on puisse faire comprendre aux ces Français, je comprends complètement ce que vous dites, qu'on puisse trouver de la réserve, entre guillemets, qui permettrait en complément du reste de trouver une solution pour le logement? Vous y croyez vraiment?
Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Oui, c'est des choses qu'on peut faire. En fait, le sujet est tellement majeur qu'on va pas, pas une solution qui va renverser la table. Oui. Par contre, c'est une addition de sujets. On a, dans la même façon, on a un sujet qui prend de l'ampleur sur nos territoires littoraux, qui sont les résidences secondaires. Quand vous avez des difficultés à loger les salariés, vous avez des difficultés de logement, des retards sur logements sociaux, et que vous avez énormément de logements qui sont fermés et vides pendant une bonne partie de l'année, forcément, vous êtes interrogatif et vous dites qu'il y a peut-être des éléments de solution qui sont aussi à trouver dans une optimisation de l'utilisation des
Vous produisez combien de logements, Saint-Nazaire ?
On est sur 400 logements par an.
Question.
Alors, je parle du groupe CSN.
Dernière question. Pour vous, 2024, c'est comment ? C'est quoi votre prévision ? Bon, est-ce que vous avez un pronostic ?
2024, le nerf de la guerre, ça va être le commercial. Est-ce que commercialement, c'est vrai, on a depuis le début de l'année un peu plus de retours clients, un peu plus de contacts. Alors ça se concrétise pas forcément,
parce
mais
moi, je
c'est un petit peu mieux.
Tout à l'heure,
on si ça repart,
c'est 2024, 2025, 2026.
Si commercialement ça repart, ça veut dire que c'est la machine qui se remet en route. Donc c'est vraiment ça.
Mais il faudra combien de temps pour la remettre en route ? Parce que vous avez dit tout à l'heure que 2025, 2026, ça va être violent encore.
En termes de construction et de projet, ça va être très violent.
C'est très clair.
Combien de temps ? Ça va prendre plusieurs années.
On voit bien que la force d'inertie, c'est-à-dire que on voit bien que les politiques publiques menées sur le logement, vous l'avez souvent dit, Yannick Borne, c'est pas une temporalité d'un mandat politique, clairement. Ça s'inscrit. D'ailleurs, je vous avais posé la question, c'est même une des premières questions que vous avez posées sur est-ce que vous seriez favorable à une loi de programmation. Vous avez répondu oui, effectivement, à une sanctuarisation finalement.
Sanctuariser le dispositif.
Absolument. Et sanctuariser, à l'instar d'ailleurs de la police, de l'armée. Enfin voilà.
On a besoin de visibilité.
C'est pas une demande anodine qui est faite là-dessus. Merci Mathieu Nédanchel. Marc Verrecchia. À la fois les usages et vos prévisions. Je sais que votre groupe se porte bien, tant mieux pour vous, avec une très belle alliance que vous avez faite avec les Canadiens. Justement, comment vous voyez à la fois le marché et quelles sont selon vous les attentes compte tenu justement de tous ces éléments à la fois démographiques et anthropologiques?
On parlait de la propriété tout à l'heure qui n'est plus accessible, en tout cas moins accessible. Vous parlez aussi,
de plus en plus tard, on y arrive.
De plus en plus tard. Et vous parlez aussi que 87% des Français veulent être propriétaires.
C'est
un
le
jour.
Premier souhait.
Donc je pense qu'il faut se recadrer là-dessus. Nous, chez nous, on a à peu près 82% des gens qui achètent pour habiter. Notre groupe est plutôt tourné là-dessus.
Ah oui, donc votre clientèle, c'est la primo-accession.
C'est la primo-accession. Donc on voit bien une appétence vraiment à aller vers cela. Et puis, il ne faut pas se tromper dans ce qu'on va leur offrir. Je pense qu'ils cherchent de la qualité, ils cherchent de l'environnemental, ils cherchent du sociétal, ils cherchent du bas carbone. Mais il ne faut pas se tromper sur les années 50 ou 60, quand on a voulu réduire les coûts, industrialiser, et aujourd'hui, on les met à la poubelle. Donc moi, je suis aussi sur l'environnemental en me disant, est-ce qu'on peut réutiliser ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va donner aux générations futures ? Et quand vous êtes propriétaire d'un logement, vous vous dites, je vais le garder toute ma vie, ou je vais le garder en tout cas dans une pérennité assez forte. Même si vous avez un parcours résidentiel, eh bien, il va sauter d'un logement à l'autre, en tout cas réadapter les choses. Donc on a, pour moi, une responsabilité de construire bien, beau, durable et réutilisable. Voilà. Et ne pas faire cette erreur de construire vite et de bétonner dans une industrialisation qui ne serait pas pérenne et durable. Voilà. Après, le deuxième point, on le voit nous très clairement et depuis janvier, c'est vrai, on n'ose même pas trop le dire d'ailleurs, on vend mieux, on voit que, je pense que effectivement, le dur est passé dans l'attente, ça commence à revenir.
D'accord.
On a Bon, nous, on est quand même sur une niche, hein, puisque on est dans des endroits toujours un peu plus privilégiés pour l'instant, avec une présentation du produit qui est plutôt haut de gamme.
Oui.
Même s'il est abordable.
Oui.
Je rappelle quand même qu'on construit dans des villes que je ne citerai pas, mais qui sont en dessous de 5 000 euros.
Vous avez toujours votre, ce qui ressemble à un musée, un truc magnifique, là, à Domus.
Alors, c'est mon parcours résidentiel à moi, ça.
Domus, à Domus. Je peux le dire aux auditeurs.
Oui, oui, bien sûr.
D'aller, on peut le visiter.
Mais bien sûr, tous les jours.
Je me suis cru à Rome. Je suis rentré, j'étais dans une ville antique avec de la très belle pierre. Vous avez pris un soin particulier, c'est incroyable, à l'éclairage.
Oui.
C'est très particulier. J'avais fait quelques interviews. J'avais interviewé d'ailleurs le maire de Rosny-sous-Bois lorsque vous avez inauguré cet immeuble qui d'ailleurs on peut le voir très facilement quand vous sortez de Domus. On le voit très très facilement cet immeuble. C'est des idées.
En fait, si vous voulez, c'est l'idée du constructeur. Je pense que il faut raconter une histoire. Quand vous achetez quelque chose, on a besoin en tant que de propriétaires de raconter une histoire. Donc là, ils ont une histoire familiale, ils ont une histoire de construction, ils ont une histoire de pérennité. Après, ils passent dans une pièce où on refait les plans. Et la dernière pièce, on n'est pas là pour leur vendre, on est là pour leur expliquer comment on construit et comment on fait. Je peux vous dire que les gens déjà acceptent déjà un certain nombre de choses, ce qui est important, mais comprennent aussi ce qu'ils achètent et ce qu'ils vont avoir. Je pense que nous, on a toujours dit, c'est pas un produit qu'on vend, c'est un logement. Il y a des gens qui habitent dedans. Donc c'est important de bien reprendre en considération ça, à tous les niveaux. Et en fait, c'est ce qu'on a voulu faire, voilà, par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle le 3-en-1 chez nous, c'est-à-dire que d'abord on se présente, on explique ce qu'on fait, on a une dimension aussi, parce qu'on a fait un fonds de dotation avec les Compagnons du Devoir, on a aussi des artistes qui montrent que la pierre, eh bien, elle est pérenne, elle est durable, elle est artistique. On a la chance d'avoir un matériau, et ça draine aussi, puisqu'on fait tout... On n'a pas que de la pierre de taille. Mais si vous voulez, quand vous avez la chance d'avoir un matériau qui est un matériau de construction, un matériau d'art, c'est aussi intéressant de montrer ce chemin. Vous voyez ? Et que l'art, aujourd'hui, doit redevenir aussi au cœur du système et au cœur des choses, c'est important. Mais vous avez raison. Bien souvent, les gens réservent. Parce qu'ils sont en confiance. Il faut remettre en confiance les choses. Il faut remettre tout le circuit en confiance.
Ouais. Voilà. Je pense que vous avez bien identifié le sujet. C'est très beau. Je vous encourage, les amis, à y aller et à voir. C'est vraiment original et singulier. Je suis très heureux que vous soyez rencontrés, justement, pour échanger cette idée. Il est bientôt l'heure de conclure. Et, comme d'habitude, et c'est une habitude éditoriale que nous avons prise lorsqu'on a co-construit avec les équipes. D'ailleurs, au passage, je remercie l'ensemble des équipes, Guillaume Bachère à la tête de Procivis qui fait fonctionner toute cette machine, Maxime Taillebois, Aurélie et toutes les équipes, ainsi que Jason, Baptiste et toutes nos équipes derrière le micro, parce que sans vous, tout simplement, nous ne serions pas là. Yannick, si on devait résumer, justement, pour ce premier numéro, et merci d'avoir pris la peine de passer par le plateau, on reste finalement sur le pont, mais on sent une lueur. Est-ce que on fait, c'est pas de la méthode Coué, hein. On sent quelque chose qui, voilà, c'est pas flashy, mais vous l'avez tous dit d'ailleurs, hein, en sous-jacent. On a une baisse relative de l'inflation. On a une baisse de plus d'un point. Ça équivaut quand même à plus de 100 points de base sur les taux d'intérêt. Et la BCE semble prendre en compte ces éléments-là. Bref, question, voilà.
Marc a parlé à la fin de ses propos de confiance. Je pense que c'est ça qu'il faut arriver à restaurer assez rapidement, peut-être maintenant, parce qu'effectivement la problématique de notre secteur d'activité, c'est que sa chaîne de production, quand elle est abîmée, elle se reconstruit pas facilement. Donc c'est un peu long. Donc voilà. Donc il y a un sujet de confiance. Il y a en face quand même une appétence et des besoins, une appétence des Français pour l'immobilier, pour être propriétaire, et des besoins qui sont quand même croissants, assez importants. Donc tout ça va dans le bon sens. Si en plus on arrive à réaiguiller quelques décisions gouvernementales dans le sens que l'on pressent, ça devrait être bien. Ce qui est un petit peu le point final, peut-être, c'est de dire dans la vie de chacun d'entre nous, je l'ai déjà plusieurs fois dit, mais dans la vie de chacun d'entre nous, quand on est en bonne santé ou pas en bonne santé, quand on a un emploi qui nous plaît ou qui nous plaît pas, quand on a une vie scolaire qui s'est bien passée ou moins bien passée, on n'a pas la même vie. C'est le logement fait aussi, c'est aussi comme ça, quoi. Absolument. Qu'on a vu quand
c'est un marqueur social.
Ouais, c'est un marqueur social, et c'est vrai que les trois premiers sont toujours, globalement, sont pris en compte par les gouvernements successifs, et que le logement, il n'est pas nécessairement vu comme un marqueur social, mais comme un arbitrage budgétaire. Donc il faut arriver.
la santé publique, par exemple, voilà. aussi.
Il faut le faire rentrer dans vraiment une politique sociale, avec sa contrainte budgétaire, et les équipes du réseau, et Mathieu et tous les organismes de gouvernance du réseau, on a aussi une ligne de conduite, c'est de dire, nous, on n'est pas en train de réclamer de l'argent public supplémentaire, et même, moi, je demande, quand on travaille, en ce moment, on a plusieurs sujets sur la table qu'on essaie de porter, à bien les chiffrer, faire en sorte qu'on n'est pas en train de réclamer du budget logement supplémentaire.
Merci beaucoup, Yannick Borne. Je l'avais fait l'an dernier, je vais réitérer pour cette année. Je vous propose de conclure nos émissions par un jeu à la mode pivot, mais avec petite originalité. Je vais vous demander, avant de nous séparer, à chacun de dire un mot, un adjectif qui vous viendra à l'esprit très spontanément pour illustrer les propos que l'on vient de d'échanger. Je vais commencer par vous, Mathieu. Vous diriez quoi ? Un mot.
Le mot confiance qui ressort fortement, c'est vraiment le sujet.
Confiance.
Redonner confiance à la filière et puis avoir confiance à l'avenir.
Le mot confiance pour Mathieu Nédonchel. Pour Marc Bérecca.
Le sens des choses.
Voilà. Le sens.
Le sens.
Le sens.
Avoir du sens.
Très philosophique.
On ne lâche rien.
Alors, un mot. Il m'en faut un.
Alors, déterminé.
Déterminé. Si l'on veut restaurer de la confiance, encore faut-il faire preuve de détermination pour trouver du sens à ce que nous faisons. Ce sera la conclusion de cette émission. Merci Marc Bérecca, président du groupe éponyme du groupe Bérecca, qu'on peut visiter. Donc je vous encourage à aller dans ce concept store, dans ce magnifique endroit où vous serez suspendu hors du temps et de voir la preuve par quatre, puisque dès que vous sortez de Domus, vous verrez l'immeuble que vous avez construit. Merci d'avoir pris le temps de passer par le plateau de Radio Immo. Un grand merci à vous, Mathieu Nédonchel. C'est un vrai plaisir de vous revoir. J'espère vous revoir très très vite. Merci pour tout ce que vous faites au CISN. Vraiment, vous êtes le directeur général de ce groupe et vous êtes également membre du réseau Procivis. Exactement. Moi, j'ai envie de vous dire juste une chose, Mathieu, ne changez rien. Voilà, restez comme vous êtes. Un grand merci à vous, Yannick Borne, président du réseau Procivis. Bien. Vous êtes toujours aussi dynamique et avec une voix extraordinaire. Je dis toujours que Yannick, mais je le dis à chaque fois, hein, dans chaque émission, il le sait, il a une voix pour faire de la radio. C'est extraordinaire.
Je sais ce que je ferai.
Si un jour vous vous reconvertissez, voilà, on fera des émissions ensemble. Cette émission est à réécouter en podcast, bien évidemment, sur les réseaux sociaux où vous pouvez liker, modérer et même donner votre avis, puisque la vitalité d'une bonne démocratie, c'est le débat et c'est l'échange sur l'application bien sûr de Radio Immo. On se retrouve très prochainement pour un prochain numéro du Sens de l'Immobilier. À très vite.
Le Sens de l'Immobilier, une émission proposée par Procivis, à retrouver sur les sites de Radio Immo et Radio Territoria.